previously broadcast program.
Touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
En raison de son profil d'homme noir, ce qui constitue du profilage racial.
Il se pose la question à savoir si c'était un homme blanc qui était dans la même situation, est-ce que le traitement aurait été le même?
Touche pas à mes droits, le podcast juridique local.
On y parle de quoi?
De profilage racial.
N'attends pas, informe-toi.
On est là pour ça.
Bonjour et bienvenue à votre nouvel épisode de votre podcast Touche pas à mes droits. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marie-Ève Sylvestre. Marie-Ève Sylvestre est doyenne et professeure titulaire à la fac de droit de l'Université d'Ottawa, de la section de droit civil. Bienvenue parmi nous, professeure Sylvestre.
Bonjour, Grace, merci de m'accueillir.
C'est un plaisir. Alors, vos travaux de recherche portent sur la judiciarisation et la pénalisation des conflits sociaux et de la pauvreté, le contrôle des espaces publics, et vous touchez notamment des questions relatives à l'itinérance, le travail du sexe, l'usage de l'alcool et de drogue, la santé mentale, la dissidence politique. Vous vous intéressez également aux mesures de rechange à la judiciarisation, notamment en contexte autochtone. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Et j'ai mené aussi des travaux à l'intersection des profilages social et racial.
Ah, merveilleux. Alors, aujourd'hui, j'aurais quelques questions pour vous. On essaye de... L'enjeu de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de passer un peu au travers des solutions, je dirais, plus connues du profilage racial. On va aussi un peu aborder peut-être la conception que le public, de façon plus large, peut avoir de la question de profilage racial. Et nous sommes vraiment très intéressés par vos points de vue. Alors, en faisant nos recherches par rapport à ce podcast, professeur Sylvestre, j'ai pu me rendre compte que vous êtes en train de faire un projet de recherche avec une de vos étudiantes, Mallory Cannon, sur le profilage racial au Québec. Et plusieurs articles qu'on a pu lire, dont un qui a attiré notre attention, stipulait qu'on trouvait qu'il y avait déjà suffisamment de recherches au Québec sur la question, on sait c'est quoi, on a proposé des solutions. Vraiment très respectueusement, quel est l'enjeu ou quel est l'intérêt aujourd'hui de faire une nouvelle recherche sur le profilage racial? Et est-ce que c'est peut-être cette recherche-là comme un angle différent? Qu'est-ce qu'elle pourrait nous apporter de plus? Ou qu'est-ce qui manque aux recherches précédentes?
Oui. Alors, ben, vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup de... C'est-à-dire, le profilage racial est un phénomène bien connu. C'est une dure réalité pour les personnes qui le vivent. Alors, on n'a pas besoin, dans un certain sens, de le documenter davantage. Mais sur le plan scientifique et au Québec en particulier, il n'y avait pas beaucoup de recherches. Et nous, notre équipe de recherche, donc composée de la professeure Dominique Bernier, de Mallory Canahan, qui est étudiante à la maîtrise en droit chez nous à l'Université d'Ottawa, mais aussi Thierry Cassius, qui est à l'École de services sociaux de l'Université de Montréal, et Arij Riahi, qui est avocate en profilage racial. On s'est lancé dans ce projet-là sur la question du profilage racial et interception routière dans le but de documenter les motifs des interceptions routières. Pourquoi est-ce qu'on intervenait auprès de personnes noirs et racisés au Québec lorsqu'ils étaient au volant, quels étaient les motifs invoqués, quel était le contexte dans lequel ça se produisait, quelles étaient les conséquences aussi sur les personnes profilées. Par conséquence, on veut dire les conséquences sur le plan personnel, sur le plan aussi professionnel. C'était également les conséquences communautaires, là, toutes les répercussions finalement de l'intervention elle-même, mais aussi au-delà de l'intervention sur les changements de pratiques au volant, etc. Donc, on a voulu documenter la situation parce que parallèlement, en fait, à ce projet de recherche, comme certains auditeurs le savent certainement, il y a eu le dépôt d'un recours en inconstitutionnalité sur l'article 636 du Code de sécurité routière au Québec, un article qui permet justement les interceptions aléatoires pour des fins de vérification en vertu de la sécurité routière. judiciaire. L'idée, donc, était d'appuyer à l'aide d'un projet de recherche qui documentait l'impact qu'avaient ces interceptions aléatoires, qui sont tout sauf aléatoires, puisque, au contraire, elles ciblaient certaines personnes et avaient vraiment un impact disproportionné sur les personnes noires et racisées. Donc, l'idée du projet de recherche, c'était non seulement de combler un vide, parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y en avait pas de recherche sur interceptions routières au Québec, mais aussi d'alimenter une expertise qui allait être présentée au tribunal dans le cadre de ce qu'on connaît maintenant comme l'affaire là, Lou en bas contre procureur général du Québec. Donc il y avait à la fois un objectif scientifique, mais aussi un objectif, je dirais, juridique ou stratégique qui était d'alimenter l'expertise là, devant le tribunal.
Oui. Effectivement, quand on parle de rapport d'experts, on a beaucoup entendu parler des dernières années du rapport Harmonie. Le rapport Harmonie s'adresse pour les interpellations, alors que vous êtes en train de préparer un travail par rapport aux interceptions. Donc, ça fait définitivement
tout
son sens.
Oui, peut-être juste préciser. Donc, effectivement, le rapport Harmonie, tant à Montréal qu'à Repentigny, portait sur les interpellations dans les espaces publics. Et ça, il y a beaucoup de recherches sur les interpellations dans les espaces publics, dans les parcs. En matière de profilage racial, notamment, il y a aussi, au-delà du rapport Harmonie, Meloné et Assaoui, il y a aussi les travaux qui ont été menés par le groupe Montréal sans profilage Anne-Marie Livingstone et Ted Rutland avaient mené avec un groupe à Saint-Michel qui avait vraiment documenté l'impact des interpellations dans les places publiques, dans les parcs. Mais au niveau des interceptions routières, des interpellations routières, il n'y avait pas de recherche. Et aussi pour vous dire que le rapport Harmonie, c'est un rapport quantitatif. Donc, ils ont analysé les données policières, tandis que le projet de recherche que nous avons mené, c'était vraiment documenté sur le plan qualitatif, donc plutôt avec des entrevues auprès de personnes profilées pour connaître un peu l'histoire derrière les statistiques. Donc, ce sont évidemment, pour les personnes profilées, des histoires connues, reconnues. Quand on les raconte, elles sont presque banales tellement elles ont été vécues à répétition. Et c'est ce qu'on s'est rendu compte aussi rapidement dans le cadre du projet de recherche, c'est qu'il y avait beaucoup de croisements, de chevauchements entre les histoires. Malheureusement, des choses qui se répétaient fréquemment, donc des interceptions pour des motifs qui sont fréquemment là mentionnés, vite teintés, vérification de routine, éventuellement on prétendait que la plaque avait été enneigée, toutes sortes de vérifications qui n'avaient pas vraiment lieu d'être ou pour lesquelles il n'y avait pas vraiment de motif. Ça se passait à n'importe quelle heure du jour ou du soir ou même de la nuit, particulièrement en soirée, mais pas exclusivement. Donc, des gens qui se faisaient intercepter à tout moment. Ils allaient à l'école, ils allaient faire des commissions, ils allaient chercher leurs enfants au soccer. Ça se passait à tout moment. Puis, dans beaucoup de cas, les interceptions allaient dégénérer parce qu'il y avait des échanges verbaux là, avec les policiers qui ne se passaient pas nécessairement bien.
Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que ces personnes-là sont interceptées. Donc, à chaque fois, à un moment donné, la coupe est pleine.
Oui, non, c'est ça, tout à fait. Donc, tu sais, tout ça pour vous dire que effectivement, il y avait pas de recherche sur la question des interceptions routières, non seulement quantitatives, mais aussi sur les expériences. Ça n'avait pas été documenté scientifiquement, même si la réalité existe depuis longtemps là.
Okay. Merci beaucoup. Aussi, on a toujours dans le processus de préparation de notre entrevue. On s'est rendu compte qu'il y a eu un rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui proposait 93 recommandations depuis 2011. Donc, ça fait à peu près 11 ans, pour lutter contre la discrimination systémique, le profilage racial. Et quelque chose qu'on a trouvé particulièrement étonnant dans ces recommandations-là, c'est qu'il y en avait vraiment beaucoup qui touchaient d'autres aspects que le contact entre les citoyens et la police. Parce que dans l'imaginaire collectif, généralement, quand on parle de profilage racial, on commence à imaginer une personne de couleur dans une auto, interpellée par un policier, un homme blanc. Généralement, c'est la première chose qu'on a dans la mémoire, mais on voit des solutions qui parlent de politique d'équité, diversité, inclusion, qui est rendu vraiment le mot qu'on entend dans littéralement toutes les grandes entreprises aujourd'hui, comme solution au profilage racial. Peut-être poser comme simplement la question, en quoi le fait d'avoir plus, je sais pas moi, mettons d'avocats noirs est une solution, par exemple, pour le profilage racial?
Oui, ben ça, je pense que c'est une d'abord, juste pour remettre en contexte, quand on parle de profilage racial, on parle pas justement seulement d'action policière. Donc, la définition, si on reprend la définition de la Commission des droits de la personne, c'est toute action posée par une personne en situation d'autorité. Donc, ça pourrait très bien, ça peut être quelqu'un au sein du système de justice, ça peut être au sein du système de protection de la jeunesse, ça peut être dans les écoles, dans les services de santé, services sociaux. Donc, il y a plusieurs lieux où il y a justement des personnes en situation d'autorité, particulièrement lorsque ces personnes-là représentent l'État et ont donc un pouvoir sur les personnes qui vont être profilées. Donc, c'est effectivement, ça se limite pas là, à ça. Mais le fait que, je pense, on mette l'accent sur l'équité, la diversité, l'inclusion, puis on pourra reparler aussi des peut-être des recommandations plus spécifique, mais je pense que ça émane d'une reconnaissance que le profilage racial s'inscrit dans le racisme systémique au sein de notre société. Et donc, qu'il y a une dimension, bien sûr, individuelle au profilage racial, la personne en autorité qui prend une décision, soit de façon intentionnelle, là, évidemment, on serait en profilage ou en discrimination directe, mais pourrait prendre aussi des décisions sans avoir d'intention spécifiquement raciste, mais qui a par ailleurs des effets discriminatoires contre les personnes profilées. Donc, il y a du profilage individuel, mais il y a aussi toute une dimension systémique au profilage où ça s'inscrit dans un cumul de violations des droits et de racisme qui est présent, qui est latent, qui s'exprime dans différentes institutions. Donc, l'idée derrière le fait de valoriser des politiques d'équité, diversité, d'inclusion, d'avoir davantage de représentation au sein des différentes institutions, je pense que ça joue sur la sensibilisation, ça joue sur la lutte contre les préjugés, ça raffermit les liens entre les personnes, mais ça fait en sorte qu'aussi qu'il y a des personnes en situation d'autorité qui doivent intervenir et qui ne sont pas nécessairement toujours blanches, justement. Donc, je pense que ça contribue à mettre en place un système où on lutte contre le racisme et pas un seul endroit, parce qu'on sait... Alors, lorsqu'une question est systémique et elle est bien installée dans un système, même les gens avec les meilleures intentions qui souhaitent changer cette culture-là rencontrent beaucoup d'obstacles. Donc, je souhaite beaucoup de courage et bonne chance au nouveau chef de police de la ville de Montréal. mais si je regarde ce qui s'est passé à la police d'Ottawa avec le chef Slowly, qui avait aussi un discours extrêmement progressif sur la question du profilage, qui dénonçait le profilage racial, le profilage social, qui voulait mettre en place beaucoup de changements de culture. Bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais il n'est pas resté longtemps. Donc, ce que je veux dire, c'est que même, c'est pas juste une personne qui peut changer le système. Je pense qu'il faut intervenir sur plusieurs plans. Et donc, c'est vrai que de dire que les mesures d'encourager l'équité, la diversité, l'inclusion à tous les niveaux, je pense, contribuent dans l'ensemble à lutter contre le racisme et donc à diminuer le profilage.
Je suis d'accord avec vous. Également, de mon point de vue, je considère peut-être personnellement que le racisme systémique ou n'importe quelle discrimination envers n'importe quelle minorité, ce n'est pas l'affaire de la minorité qui est discriminée, mais c'est l'affaire de la société. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut être comme société au Québec qui devrait plutôt nous interpeller. Vous avez parlé tantôt de l'affaire Luemba. Moi, j'ai l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu controversé. Je regarde les commentaires. Ça me donne un peu peut-être pas une image bien définie, mais peut-être un pouls un peu de comment les gens vivent certaines choses. Et il y avait vraiment beaucoup de personnes qui étaient vraiment qui se réjouissaient, qui comprenaient un peu ce que l'article 636 avait comme impact dans la vie des personnes racisées ou non blanches. Et il y en avait d'autres qui se plaignaient un peu du fait que on a donné raison, permettez-moi l'expression, aux chialeux. On empêche les policiers de faire leur travail. Et ça m'a poussé à me poser une question de comment est-ce qu'on peut rassembler les Québécois autour de cet enjeu-là, de comprendre qu'est-ce qu'il y a une solution qui est proposée pour que tous et chacun puisse se sentir concerné. Parce que ce n'est pas juste, la beauté, pour la beauté du Québec, moi je dis souvent la culture québécoise pour moi se trouve en grande partie dans la charte. Puis la charte a tendance à protège les droits des minorités. Donc techniquement les Québécois devraient être en accord avec ça a priori. Donc comment est-ce qu'on fait pour que dans le quotidien on puisse vivre cette envie de protéger les minorités ensemble?
Ouais, ben c'est une superbe question. D'abord, je pense qu'il y a vraiment des messages sur le plan politique là, qui devraient être lancés autrement. Donc il y a deux cartes qui sont souvent jouées là, sur la scène politique et qui, je pense, divisent et opposent les gens au lieu de les rassembler autour d'un enjeu qui est essentiellement un enjeu de discrimination, de violence aussi, de violation des droits. La première carte, c'est la carte de l'identité. Cette idée de très divisive là, que le fait de reconnaître qu'il existe du profilage racial ou qu'il existe du racisme systémique au sein de la société québécoise, c'est blâmer certains Québécois, c'est de pointer du doigt. Donc là, on vient vraiment jouer sur une corde sensible identitaire là, de certains Québécois qui pensent qu'on remet en question le Québec, qu'il s'agit de francophobie, qu'il s'agit de sentiments anti-Québec, alors que pour moi, ben, le racisme systémique clairement n'est pas un fait québécois. C'est un fait beaucoup plus large que le Québec, mais c'est le Québec n'y échappe pas. Donc il y a cette carte là, je pense, qui est souvent jouée là sur le plan politique, où là on dit ah, mais là, tu sais, on est en train de dire que les Québécois sont ci, sont ça, alors que je pense qu'on doit pouvoir avoir ces conversations là sans se remettre en question, et surtout sans opposer d'un Québécois à l'autre. Donc c'est cette idée que les personnes profilées ne seraient pas des Québécois, ou bon, tu sais, tout ça, je pense qu'il faut mettre ça de côté. Mais beaucoup de politiciens jouent sur cette carte là et je trouve que ça devient très difficile d'avoir une discussion cohérente quand les gens se sentent attaqués là, dans ce qu'ils ont au cœur de leur identité. Et l'autre carte qui est souvent jouée, c'est la carte de... Ben, présentement, là, mais c'est aussi quelque chose qui revient de façon récurrente, c'est la carte de la violence armée, l'espèce de spectre de la grande criminalité, les policiers, la nécessaire intervention policière là, pour mettre fin à la violence, pour mettre fin à la criminalité, comme si le profilage était le meilleur outil pour lutter contre la criminalité, pour lutter contre la violence. Donc, d'abord, il y a un peu de surenchère autour de la violence. Là, on sait que il y a peut-être une recrudescence d'événements là, spécifiques là, dans certains secteurs, là, mais de façon générale, le niveau de criminalité est en baisse au Canada depuis des années. Là. Donc, il y a une espèce de surenchère sur le phénomène, mais je veux pas banaliser du tout l'existence de ces événements-là, mais il y a comme un présupposé que le profilage racial serait le meilleur outil pour mettre fin à la violence armée, que lorsque les policiers font du profilage, ils sont les plus efficaces et qu'il faut leur permettre de faire du profilage pour trouver les criminels. Et donc là, il y a toutes sortes d'associations là, qui tiennent pas la route en dessous de ça. D'abord, il y a cette idée que, évidemment, ce seraient les personnes noires racisées qui seraient les plus susceptibles de commettre des actes criminels, ce qui, c'est sur le plan statistique, scientifique, ne tient pas la route. Premièrement, tu sais, on sait que la criminalité est répartie là, au sein de la population et que les statistiques criminelles dépendent de où on pose notre regard. Là. Et pendant que les policiers font du profilage, ben, ils ne regardent pas ailleurs non plus les personnes non profilées qui, elles, continuent de s'engager dans la criminalité. Donc, je pense que c'est faux de penser... En fait, le profilage est inefficace aussi sur le plan policier et ça, il y a beaucoup de recherches en criminologie qui le démontrent. Donc, je pense que il y a ces deux cartes-là qui, si on arrête de les brandir en épouvantail et si on s'en tient aux faits, donc déjà là, on a un dialogue beaucoup plus rationnel, ouais. Puis on est en mesure de se rassembler sur ces idées-là. Mais sinon, je pense que il faut aussi pouvoir promouvoir la diversité au Québec comme une richesse et comme une richesse collective et non pas seulement comme des populations à protéger. Donc, il y a aussi cette idée là, que ça ne les concerne que les personnes ou qu'elles, les personnes profilées et que ça ne concernerait pas l'ensemble des Québécois alors que c'est pas le cas du tout. Là, lorsque les droits d'une personne sont violés, je pense que c'est toute une collectivité qui perd. Et donc, je pense de soulever ça, là, c'est pas seulement de défendre les droits de personnes noires et racisées, c'est aussi de célébrer leur présence, puis de s'assurer qu'elles aient tout l'espace et pour se développer et pas subir ces traumatismes et cette violence-là au quotidien. Là, donc,
tout à quotidien, fait. Ouais. Puis, ce que vous dites, ça fait vraiment écho un peu à un discours qui se développe beaucoup en Occident, un discours très nationaliste, refermé sur soi-même, un développement d'une identité nationale. C'est comme on crée des vrais citoyens, puis des citoyens qui... Et une autre catégorie de citoyens qui n'appartiennent pas nécessairement à la société, on va dire, ou qui doivent gagner un peu leur place au milieu de la société québécoise. Et ça m'emmène à la prochaine question, parce que en 2019, les étudiants en technique policière du Collège Maisonneuve, dans le cadre d'un cours de sociologie, sont allés à la rencontre d'immigrants, de nouveaux arrivants qui étaient en apprentissage du français au centre Yves Thériault. Et l'idée, en fait, les étudiants devaient faire une présentation sur le pays d'origine des personnes avec qui on les avait jumelés pour faire tomber leur biais ou leurs préjugés. Alors, sans vouloir tomber dans la critique, je trouve extraordinaire, c'est une bonne idée de se dire qu'on va aller à la rencontre de l'autre et de l'inconnu. Mais quelque part, ça vient mettre en question un peu le côté inconscient du profilage racial. Parce que si, par défaut, dans un cours de sociologie, on estime que, premièrement, les étudiants vont avoir des biais par rapport aux immigrants, il y a des personnes racisés qui ne sont pas des immigrants, qui sont nés au Québec. Donc, est-ce que ça veut dire que, par défaut, la formation intègre que tout ce qui n'est pas blanc est immigrant? Et ensuite de ça, si on sait qu'on doit faire tomber ses biais par rapport à ce groupe de personnes-là, on ne peut plus dire que c'est un biais inconscient. Quel est votre point de vue sur la question?
Ouais. Je pense que c'est clair que dans ça, là, il y a des amalgames là, qui sont faits de façon complètement erronée. Là. Donc, effectivement, tu sais, de penser... il y a des personnes noires au Québec qui sont ici depuis 400 ans. Là, donc, évidemment, pas elles-mêmes, là, mais leur famille puis leurs racines sont québécoises depuis des générations et des générations. Et c'est pas la même expérience que qu'ont ces personnes-là ou la même relation avec avec le territoire, avec la citoyenneté versus un nouvel immigrant versus un immigrant de deuxième, troisième génération dont les parents ont plutôt émigré, dont l'enfant est né ici. Donc je pense qu'il y a une complexité, une multiplicité d'expériences. Et d'ailleurs, la recherche sur le profilage racial démontre que ces personnes-là, que les nouveaux arrivants, en fait, plus t'es récemment arrivé, plus moins t'as eu encore des expériences de profilage racial, ben plus t'as peut-être des bonnes relations avec les policiers, mais plus tu es ici depuis plusieurs générations, plus t'as eu des mauvaises expériences avec la police et plus ces traumatismes sont devenus intergénérationnel et transmis de père en enfant, plus là, les tensions sont vives et il y a des choses à réparer. Donc d'abord, de penser que les personnes noires ou racisées sont seulement des nouveaux immigrants, là, ça, c'est vraiment un raccourci là, qui me semble erroné. Alors, je ne connais pas du tout le projet là, dont vous parlez. Là. Je ne sais pas ce qu'il y avait derrière ça. Puis quels étaient les objectifs pédagogiques, puis je serais curieuse d'en apprendre davantage. Là, mais sur cette question-là, ça me fait penser à ça. Sinon, au niveau des biais inconscients, mais ça, c'est intéressant parce que je pense qu'il faut, les mettre sur la table, il faut voir ce que ça cache. Un des biais les plus forts ou une des prémices les plus fortes en matière de relations policières et profilage racial, ben c'est cette idée que qu'une personne noire et en particulier que les hommes noirs sont potentiellement plus dangereux ou plus susceptibles de commettre des actes criminels. Donc je pense que c'est sur ce préjugé-là qu'il faut travailler. Et il est profondément ancré chez beaucoup de personnes. Et je pense que, tu sais, pour revenir un peu à la première question, la deuxième question que vous m'avez posée sur comment sensibiliser, comment rassembler, je pense qu'il faut les dire, ces choses-là, les déconstruire ensemble, donner des exemples, les rationaliser, parce que je pense qu'il y a des choses un peu émotives là, dans ça aussi. Donc, je pense qu'il faut les expliciter, là, ces préjugés-là, puis créer des espaces où c'est possible de les dire. Tu sais, moi, j'ai ce préjugé-là, je demande, tu sais, je suis pleine de bonne volonté, je ne demande pas mieux de... mais comment on peut y arriver, tout ça. Mais comme vous dites, ça ne devrait pas reposer non plus sur les personnes noires ou racisées de devoir déconstruire ces préjugés-là, mais de créer ces espaces dans la société où on peut en discuter. Puis là, de bâtir des projets pédagogiques autour de ces préjugés-là, je pense que ça serait intéressant.
Une solution gagnante. Et notre dernière solution, mais non la moindre, elle a fait couler beaucoup d'encre à Montréal dans les journaux. Le port de caméra corporelle. Alors, c'est une question à plusieurs volets. Parce que le port de caméra corporelle, on s'est dit, souvent les victimes de profilage racial ne sont pas crues par les tribunaux. C'est comme, on va dire, entre guillemets, au début. Mais maintenant, de plus en plus, aussitôt qu'une personne racisée est en contact avec la police, et je parle pour moi, ça, c'est vrai pour moi, pour la plupart des gens que je connais aussi. Le téléphone cellulaire est pas loin pour enregistrer. Le record sur l'Apple Watch est pas loin non plus parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Donc, il y a comme beaucoup un bris de confiance. Puis, les personnes se disent, avec une caméra corporelle, au moins, on a la trace complète de ce qui s'est passé. Le policier, bon, oui, il y en a qui sont du type où c'est à la volonté du policier qui décide de la partir. Moi, pas très efficace selon moi, mais celle qui est comme always, toujours allumée, donc le policier n'a pas de choix de des images, les gens se disent ils seront peut-être plus en sécurité. Mais d'un autre côté, on se rend compte aussi que les policiers sont maintenant habitués à être tout le temps devant la caméra, puisque tout le monde sort un téléphone, ils sont confortables. Moi, je me souviens, les premières vidéos qu'on voyait, souvent ils disaient arrêtez de filmer. Puis, dernièrement, j'ai écouté une vidéo et le policier a dit, c'est correct, tu peux filmer, mais m'empêche pas de faire mon travail. Donc, on se rend compte qu'il y a une décomplexe, un dé- ils sont plus complexés d'être filmés, ils sont confortables. Donc, du coup, est-ce que ça reste encore une solution? Ça, c'est un des problèmes. Une autre option, un autre aspect, c'est le côté technologique, où il y a comme une erreur au niveau des algorithmes qui ferait en sorte que plus la carnation est foncée, plus il y a un problème avec la reconnaissance faciale. Et par exemple, on disait que les femmes noires ont 35% de plus de 35% de chances de plus d'être mal identifiées avec les caméras corporelles. Et un dernier problème se trouve au niveau des droits et libertés de la vie privée, par exemple, parce que la caméra elle filme pas juste le suspect, elle filme aussi tous les passants dans la rue. Donc jusqu'à quel point ça reste un outil efficace de lutte contre le profilage?
Ouais, ben alors une question à plusieurs volets. Oui. La première, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça fait partie de la solution? Effectivement, là, comme vous, lorsqu'on faisait nos entrevues avec les personnes noires et racisées qui étaient victimes de profilage racial dans des interceptions routières, la totalité ou pratiquement de ces personnes ont filmé des interventions. Certains d'entre eux avaient des caméras qui roulaient 24 sur 24 dans leur véhicule. Donc, une bande en continu. Wow. Ça démontre la profondeur, évidemment, du traumatisme parce que, en tout cas, c'est pas nécessairement dans les habitudes de l'ensemble des Québécois, des Québécoises, là, de filmer en continu. Je pense que ça démontre vraiment l'ampleur de la gravité de la situation. Effectivement, ça garde une preuve. Et dans ce sens-là, il y a cet aspect-là. Mais comment dire? Alors oui, les policiers se sont habitués, mais aussi souvent, dans les interventions policières, les policiers pensent qu'ils font les choses correctement. C'est-à-dire qu'ils se sentent, ils sont, pour eux, ils sont justifiés d'intervenir de la façon dont ils interviennent. Ils ont en partie raison parce que le droit, dans plusieurs cas, va leur donner raison. Soit parce que, en vertu de l'article 636, justement, ils ont le droit de faire des interceptions routières dites aléatoires, même si, comme on disait, elles n'ont rien d'aléatoire. Ils ont des assises juridiques. Ils ont un grand pouvoir discrétionnaire aussi, dès lors qu'ils ont des motifs raisonnables de croire dans certains cas. Il y a beaucoup d'assises qui font croire qu'ils ont raison et éventuellement si a posteriori c'est contesté, leur donner raison. Donc, il y a beaucoup de moyens de défense aussi. Je ne suis pas certaine que ça change les comportements. Et même lorsque les policiers ont certains comportements répréhensibles, je pense que dans certains cas, encore une fois, ils se croient justifiés de poser les gestes qu'ils posent. Donc, la caméra, la technologie ne change pas, je pense, les cultures. La technologie est là. Mais si les policiers sont convaincus qu'ils font les bonnes choses, c'est pas parce qu'ils sont filmés qu'ils vont faire les choses autrement. Donc, il y aura pas nécessairement d'impact direct. Maintenant, sur la question de l'identification, je pense que vous êtes très, très au courant là, de la recherche dans ce domaine-là. Je ne suis pas une experte de ça, mais j'ai une collègue ici à l'Université d'Ottawa, Céline Castet-Renard, qui fait de la recherche sur les algorithmes puis l'identification, justement. Puis c'est exactement ces statistiques qu'elle cite souvent, donc les erreurs d'identification. On sait aussi que dans le lot d'erreurs judiciaires qu'on a connues au Canada, à chaque fois que des innocents ont été trouvés coupables et emprisonnés dans beaucoup de cas, l'erreur d'identification était souvent pointée du doigt. Donc, c'est pas à sous-estimer dans le cas de personnes noires, racisées, autochtones, qu'il y ait des erreurs d'identification et qu'elles aussi mènent à des erreurs judiciaires. Donc, il y a des risques. Je pense aussi si on n'est pas en mesure de... Ça dépend de la qualité de l'image là, qui va être prise. Puis au niveau de La vie privée, ben oui, c'est, je pense que vous posez une excellente question parce que qu'est-ce qui arrive de ces images-là une fois qu'elles ont été enregistrées là, jusqu'à quand est-ce qu'elles vont être dans les serveurs, à quelle fin est-ce qu'on va pouvoir les utiliser, est-ce que les policiers vont pouvoir les utiliser à des fins d'enquête finalement, puis vont recueillir de l'information sur les personnes avec qui ils ont échangé alors qu'ils n'avaient pas nécessairement de motif de recueillir ces interventions-là. Donc, souvent, il y a des façons détournées pour les policiers d'obtenir des données d'enquête. Donc, je ne sais pas, ça soulève du moins cette question-là de que se passe-t-il avec les données. Mais là, j'en connais pas assez sur l'utilisation qui va en être faite, puis des garanties qui vont être mises en place là, pour s'assurer de la protection des droits, notamment le droit à la vie privée. Là.
Oui, merci. On a fait le tour des solutions un peu que j'aime dire populaires sur le conservateur du profilage racial. C'était vraiment un plaisir très intéressant de discuter avec vous. J'espère que vous avez également du plaisir à participer à cette émission-là.
Oui, puis félicitations pour ce magnifique balado. Touche pas à mes droits. Je pense que c'est vraiment important de continuer d'en parler, de sensibiliser les gens, mais aussi de documenter, de dénoncer, documenter, même si pour les personnes profilées, c'est des histoires qu'on entend régulièrement. Je pense que il faut continuer de le dire. D'abord, les gens se sentent moins seuls, mais aussi il y a des changements qui peuvent découler de ça. Donc, je trouve que c'est un outil de défense des droits qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc, félicitations.
Merci infiniment.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Néolabs, la Ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
CKUT is looking for a full-time sales and administrative coordinator. The sales and administrative coordinator is responsible for the sale of on-air advertisements and co-presentation partnerships, as well as the negotiating of the radio station's administrative contractual agreements. The ideal candidate will have a passion for community radio, the ability to work with volunteers, clients, and community members, is well-organized, and has strong negotiating skills. We are looking for someone with knowledge of Montreal's arts, culture, and activity scenes who sees media as a tool for building community and can work in a non-hierarchical organization. Financial literacy, bilingualism, and experience with Google Suite products are also a requirement. For full details about the position, wage, and benefits, please visit ckut.ca. The cutoff for applications is Monday, February 6th at 5 p.m. CKUT strives to be a progressive working environment and recognizes experience outside of the formal workplace as important qualifications. We value the unique contributions that individuals from traditionally underrepresented and oppressed communities bring to our organization and encourage these individuals to apply.
Welcome, listeners, to CKUT 90.3 FM, John Abbott on the air. I'm your host, Eric Arsenault. Today's guest, we have Faria Naqvi Mohammed, a columnist for the Montreal Gazette, host of Diverse City on City News Montreal, and blogger, founder of CanadianMomA.com. Now, Faria is such an amazing person to me because she's given me the chance to grow and become the person I am today. I've been fortunate enough to go on City News Montreal and Breakfast Television Montreal and on her personal segment, Diverse City. And it's all because of her, because she saw what I had to offer. She's given me a chance to tell my story. And I sat there thinking, who can I interview? Well, why not the person who's always interviewing me? Faria joins us on a Zoom call today. I am fortunate to be in her presence. Hi, Faria.
Good morning, Eric. Thanks for having me.
Thank you for being here. Now, Faria, can you give us a little bit more about yourself?
Absolutely. It'd be my pleasure. So I am Montreal born and raised. I am a fiercely proud Quebec born Canadian Muslim woman. I am a mom of two. I'm a journalist, blogger, columnist, and a social media influencer and a PR specialist, if you would say.
You can find Fariha on many different platforms of social media on Twitter, Facebook, and Instagram at the handle Canadian Mom A. Now, Fariha, can you tell us what was that spark that started your journey in journalism, started your passion? I'd like to know the backstory, your backstory.
So my backstory is I was 7 years old. I was sitting on my parents' dining room table with a copy of the Montreal Gazette. And it just, something clicked. And I knew that one day I wanted to be writing for that. So I took the newspaper, ran up to my parents' bedroom and said, one day I want to write for this. And my mom, bless her heart, may she rest in peace. She said, no, honey, one day you want to own this. Aww. And that's the woman who raised me. So it was, I worked really hard despite not having anyone who looked like me in the media. I mean, this is before I even wore the hijab. There was no one, no person of color really at that time, or anyone from the South Asian background who was working in journalism in mainstream media, not that I knew of at least. So I knew I wanted to be a journalist. I worked really hard. I took the right classes. I inhaled books left, right, and center. I still do. I'm a voracious reader. And I honed my craft. And then when I was 17 years old at John Abbott College, and I made the decision to wear the hijab, I had people around me tell me, oh, well, I guess you're kissing your dream of working in mainstream media goodbye, because there's nobody who looks like you working in mainstream media. But I knew in my heart it was the right thing to do for me. That's what I wanted to do. So I stuck to it. Fast forward a few years, I got married, moved to Toronto, had my kids. And all of a sudden I knew I had to be writing, because writing was such a passion of mine. So about 9 years ago, I launched CanadianMomA.com. Initially, it was for, you know, sharing recipes and talking about my day. And then something happened that just changed the course of my entire life. Then Premier Pauline Marois raised the topic of the Charter of Values here in Quebec. And as a blogger, I knew the two things you never do, the two things that were the most taboo in the blogosphere: you don't talk about religion and you don't talk about politics. And that night that was announced, I went home, I was driving, and I heard the talk of the Charter of Values on the radio. And it just got under my skin. And I came home and I poured my heart out into a blog post. I wrote an open letter to then Premier Pauline Marois, and I hit publish and I went to sleep. And the next morning I woke up and 50,000 people had read my blog post overnight. And at that time, I had never seen numbers like that before. So that led to local, national, and international television, print, and media coverage, interviews, which brought me onto the couch at Breakfast Television Montreal. It was their second week since the program had launched. I was a guest and I had written about my open letter and why I had written it. And at that time, I was the first woman to appear as to be interviewed wearing a hijab on Quebec television. And I was told by different media outlets, all meaning well, that they just had never come across an articulate Muslim woman who could speak well on radio and television. That says a lot. And when that interview ended, the then host turned to me and said, "You're good." And I said, "Thank you." He said, "No, you're really good. Like, we need to have you back on." And I said, "Sure." So for the following 5 years, anytime there was an issue regarding Muslims or Islam, I would get a phone call and I would be asked to be back on the show. And every time they would say the same thing: "You're really good." So then one day I said, "You know, thank you. I love being here, but you know what? I'm more than just my hijab. I'm more than just my faith. I'd be happy to be here and cook with you. I love to cook. I would be happy to be on here and bake with you or talk to you about, you know, any other issue." So fast forward to the Quebec City shooting in 2017 and that tragic event, that was a nightmare for Canadians, for Quebecers. And just a few weeks after that shooting, I got a call from the Montreal Gazette saying, Hi, Faria. We've been reading your blog for the last few years. We know what you're about. And how would you like to have a space to write in the Gazette, your own column? Of course, that was my seven-year-old self's dream come true. So I said, yes, please, and thank you. And so began my journey with the Montreal Gazette as a columnist. Every Friday, I have my op-ed column where I speak about whatever is on my mind, whatever the topic of the week is, whatever people are talking about, and I respond to it from a unique perspective. And one thing I should mention is my unique perspective is one of championing diversity. So it's not just championing being a Canadian, you know, Quebec-born Canadian Muslim woman, but championing diversity as a whole for everybody, for celebrating our differences. And so then two and a half years ago, I got another phone call from the producer of City News Montreal saying, hey, Faria, we're launching City News Montreal. At that point, it didn't exist. And we're looking for a VJ. We're looking for a video journalist. Is this something that would interest you? And I paused for a moment because I realized in that moment that, hang on, they know I wear a hijab. They know that I'm a Muslim woman. They know that I'm not white. And they are asking me to work for City TV. And so I said yes. And the day they announced my presence on the show, on the network, on Breakfast Television Montreal, then host Derek Fage, who's a wonderful human being, turned to me as I was leaving the makeup room and I was about to get onto the stage. He turned to me and he said, are you ready to make history? And I will never forget those words. And so history was made. I became the first woman in Quebec history to wear a hijab on television.
Wow. Chills to the bone. Honestly, I feel des frissons going all the way up my back. That is an amazing story. And the fact that you got to realize your dream, your seven-year-old self dream, and that you made history and a bunch of other amazing stories in your story, which I look up to that. And I'm glad, and it gives me hope that we're seeing stories like you and people pushing through. And obviously, to be able to accomplish what you have is you have to have had worked really hard, three times as hard. And I would just like to know, me myself, having not being white and experiencing some instances of racism, what is it that drives you, that when you wake up, you're like, I'm doing this? What is it that keeps you going? And what is it that memory that you always go back to and you're like, this is why I'm doing it?
That is an excellent question, Eric. And the simplest answer to that is a painful one. I was bullied as a child. I would have my backpack thrown off of me when I got off of the bus, and my face would be held into a pile of snow for so long that it would burn. And I would be called names, and I would be made fun of, and I would be told that I was dirty because my skin was not white. And this is a lot of the trauma that I dealt with as a child in elementary and in high school. And I hated it. I hated it with every fiber of my being. And it could have done one of two things. It could have ruined me, and it could have ruined my perspective on life, or I could have learned from it, and I chose the latter. And I knew how awful it is to be targeted and to be bullied and to be made fun of for the color of your skin and for being different. And I vowed to myself to one day be the change the world needed when I was young, because I never want anyone to feel less than for the way that they look, for the way that they speak, for their beliefs, for how they dress. That is simply unacceptable. So I do my part in championing diversity. I do my part for rooting for the underdog, no matter what they look like, no matter who they love, no matter where they're from, because I know what it's like to be targeted for being different. And so what I do is when I walk into a room, chances are I will stand out like a sore thumb. The difference now is that I own it.
Owning it. I totally believe in that. You need to be able to own it. And stand up and be proud of who you are and where you come from and what you stand for and what you believe in. Totally, 100%, I'm behind you for that one. Now, something I'd like to say is what I find amazing is using radio and podcasts as a platform for telling our stories. Because right now, the listeners, you're not seeing Faria for her hijab or for her faith or for the color of her skin. And you're not seeing me for the color of my skin or my long hair or the way I dress or the way we dress. You're hearing us for our voices. You're hearing our stories and what we have to say. And I think that this is a very powerful tool to fight racism, to hear people's stories, to fight racism and all these terrible other ideologies that discriminate and put down people. Now, radio and using your voice in podcasts is an amazing tool, but also what we're seeing is a huge rise in the use of social media to combat all these terrible things that are happening. And I would just like to know, how have you been able to coordinate and use and harness social media to be able to tell stories and go out there and make a change?
I think the important thing is that the important shift that's happened, and I'm so proud of City News Montreal and our team for doing this, is it's not about going out there and telling someone else's story. It's about going out there and passing someone the mic to be able to tell their own stories. Because I remember prior to doing media appearances and radio interviews and television interviews, I remember being so tired of having everyone speak for me. And obviously it felt unfair. It felt unjust. I felt silenced. And so the number one thing I realized is I don't need somebody else telling my story for me. I need to be handed the mic to be able to tell my own story. And I take that same philosophy into each of my interviews. I see the angle of diversity that I want to champion, whether it's cultural, whether it's religious, whether it's sexual orientation, whether it's ableism, any form of diversity. I go in there and I ask questions and I tell stories. And I try to understand the essence of who I'm speaking to, and then convey that essence using the person's own words.
I like that. I like passing the mic. I like that phrase. I'm going to remember it now for all my future interviews. I want to talk about young people because I'm 17 and there's a message for us. There's an opportunity for us to learn and apply what we learn to our future. And, you know, we have all our elders around and sometimes it may seem that they forget that they were young at one point, but everyone was young, right? So you being such a role model of hope and strength and seeing that we can do it, people of minority can do it. What is a message that you'd like to leave for us, for young people?
There's so much that I would tell young people, but I think the number one thing is to never give up on your dreams. Don't, and I know it's cliche, you hear a lot of people say it, but I'll tell you why I say it. I say that because it's so important now more than ever before to never let the fact there might not be anybody who looks like you doing what you one day dreamed to do. And don't ever let that stop you. Be the change the world needed when you were young. Those are words that I read maybe when I was 10 years old, and it just stuck with me. And I asked myself at that stage in my life, what change does the world need? And it sounds like a very big question for a young person, but I remember believing in it to my core that I wish there was somebody who looked like me doing what I dreamed to be doing. And that's all I wanted. I wanted somebody who looked like me. And I am so incredibly blessed to have worked really hard and to have developed the skills to then be that somebody. So never give up on your dreams. And one of the biggest things that I have realized that my role at City News Montreal and my role being on people's televisions at 6 p.m. and 11 p.m. on weekdays, on Facebook, Instagram, Twitter, one of the biggest things I've realized is it's actually given little boys and girls who look different permission to dream. That's what it's done. It's opened up doors and windows. And that's something that I do not take lightly.
Never give up on your dreams. I like that because I have huge dreams of my own. And yes, like you said, it sounds cliche, but I have huge dreams of my own. And how am I going to be able to achieve those if I don't believe in it? You hear that, young people? We got to work hard and believe in our dreams. Something I'd like to say about this whole interview is the power of conversation and the power of how conversation can open your eyes and speaking to someone face to face, eye to eye, who is different from you, who has different beliefs from you, who thinks differently, whether you are a liberal talking to a conservative or a Christian talking to a Buddhist or you're a black person talking to a Hispanic person, it just opens your eyes and educates you. So I think that now we need to be going out and reaching different people of different cultures and beliefs and backgrounds to really educate ourselves. I'd like to ask something. What are three words you stand by every day that without a doubt pass through your mind? And these words define Faria. These words are what make you.
Authentic. Unapologetic. Fierce.
I'm not going to say anything because I'd like for us to take it and digest it and reflect. And to see what an amazing person you have become and how maybe we can apply those words to our life and our habits. Well, Faria, that's all the time we have for today, but I'd like to thank you. I've had an amazing time, a blast. You've been an amazing guest to interview, and I always love doing interviews with you, but now the tables have turned, right? So thank you for coming on and sharing your story. It's fantastic, a fantastic story.
Thank you, Eric. I applaud your work and I'm loving watching your development over the years and following you. And I have absolutely no doubt in my mind you are going to be doing such incredible things with your life. And I can't wait to follow your success. So thank you for having me. It's really been an honor to be interviewed by you.
Aw, thank you. That was Faria Naqvi Mohammed, a columnist for the Montreal Gazette, host of Diverse City on City News Montreal, and blogger and founder of CanadianMomA.com. If you'd like to find Faria, visit Instagram, Twitter, or Facebook with the handles CanadianMomA. She has a story to tell, an amazing message, and has overcome so much. I loved this interview, and I've learned so, so much. I'm your host, Eric Arsenault. If you'd like to see the content I've done, please visit Instagram, Eric_Arsenault.live. You're listening to John Abbott on the Air with CKUT 90.3 FM. Take care.
Good morning, everyone. I'm Alexander Narynx, and this is CKUT 90.3 John Abbott on the Air. Today, we'll be accompanied by a special guest who was invited to do an interview. I'll be interviewing Vincent Narynx, a medical worker from Quebec who works at the Sacré-Cœur Hospital in downtown Montreal as a special counselor.
Hi, I'm Vincent Narynx, special counselor for teenagers at Montreal Sacred Heart Hospital.
So we've heard that COVID-19 affected a lot of medical workers like you. How has it affected your job in particular?
In many, 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 many ways. First, with insecurity. We didn't know if we would stay open. We didn't know if we had any possibilities of getting COVID ourselves and contaminating our family. Then the direction decided to close our department so the teenagers wouldn't have any services. Then they did close our department, and after that I was relocated in another department, follow up with the schizophrenics in the community.
We would also like to know, how has it affected your patients personally?
They were pretty lost, because from one day to the next, they were sent home with no care, no health care, no mental cares, with their anxiety and everything that was happening around themselves, around the world, and it created some kind of panic.
Could you please give us an example?
I have a patient who was treated for drug abuse, and from one day to the next, she had no treatment anymore. Her drug addiction gave her anxiety. Hey man, you a little sucker for love.
What's up, everybody? What's up, everybody? Welcome back to Ask Miss Chris. Today's the first episode since the new year. As I told you last week, it was a little takeover of Quirkcore. I was in my little Barbara Walters bag. There we go, way better. So I was in my little Barbara Walters bag, but now I'm back with Ask Miss Chris. Today is 2023 ins and out. What are you willing to change? What are you willing to do for love? And since we're on the topic of love, let me leave you a two-pack. Do for love. I'll be right back. You're killing me with your jealousy. Now my ambitions to be free, I can't breathe. Cause soon as I leave, it's like a trap. I hear you calling me to come back. I'm a sucker for love.
You're pregnant and guess who's the daddy? Don't wanna fall for it, but in this case, what could I do? So now I'm back to making promises to you, trying to keep it true. What if I'm wrong? A trick to keep me holding on, trying to be strong in the process, keep it going. About to lose my composure, I'm getting close to packing up and leaving notes and getting ghosts. Tell me who knows a peaceful place where I can go to clear my head. I'm feeling low, losing control. My heart is saying leave, but what a tangle where we weave when we conspire to conceive. And now you're getting calls at the house, guess you're cheating. That's all I need to hear, cause I'm leaving. I'm out the door, never no more will you see me. This is the end, cause now I know you've been cheating. I'm a sucker for love.